Radio Campus Paris.
Est-ce que vous pouvez me dire qui est Valérie Pécresse ?
Pas vraiment.
Ah, j'ai aucune idée.
Alors, je la connais de nom, mais je me souviens pas de qui c'est.
C'est une femme politique, je crois.
Elle habite à Versailles, c'est ce que je sais.
Valérie, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage Pécresse, ça. C'est une députée.
C'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale.
Elle est candidate au régional pour les Républicains.
Et je crois qu'elle est en très bonne voie, elle est dans les sondages.
Je crois que son slogan, c'est... plus de bouchons dans Paris, quelque chose comme ça, non ? Et...
qui est affilié à Nicolas Sarkozy. C'est un personnage assez intrigant.
C'est celle qui avait comparé la fraude dans le métro au terrorisme, c'est ça ?
Assez conservatrice.
Après, je la connais surtout pour ses phrases repérées par le Petit Journal, mais voilà.
Ça vous évoque quoi, les Républicains ?
Voilà, c'est la droite, quoi, la droite française.
Ça me fait assez penser à la politique américaine.
Sarkozy.
Il y a une réutilisation un petit peu bizarre pour le nom, quoi.
Mais au final, ils ont juste changé de nom, mais il y a toujours les mêmes affaires, les mêmes casseroles, les mêmes mecs de droite. Donc.
On a l'impression qu'ils sont engagés dans beaucoup de procès, de choses un peu louches, et du coup, c'est un peu l'image que j'en ai. Voilà.
Une mascarade ?
Beaucoup de mépris avec une petite dose de dégoût.
Ils se renomment de plein de façons pour relancer la machine, et ça fonctionne pas là, ça fonctionne de moins en moins, je trouve.
Dans cette première partie d'émission, nous recevons Othmane Nasrou, le porte-parole de la candidate pour l'Île-de-France, Les Républicains, Valérie Pécresse. Bonsoir Othmane Nasrou.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce studio, même si nous aurions été tout aussi contents de recevoir Valérie Pécresse, puisque la candidate pour la liste UDI, Les Républicains et Modem semble avoir l'avantage hein, pour ces élections régionales, qui auront lieu, je vous le rappelle, les 6 et 13 décembre prochains. Selon un sondage Ipsos publié hier pour Radio France et France Télévisions, elle ferait 33% au premier tour. Un deuxième tour serait plus serré à 40% pour la candidate contre 36% pour la liste socialiste conduite par Claude Bartolone. Est-ce que vous vous sentez prêt à reprendre cette région à la gauche qui est élue en Île-de-France depuis plus de 15 ans maintenant ?
Bah écoutez, je pense que Valérie Pécresse s'est vraiment préparée à cela. Ça fait plusieurs années qu'elle laboure le terrain, qu'elle sillonne l'Île-de-France dans tous les sens, qu'elle a été partout. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle sera très heureuse de venir vous rendre visite si elle est élue. Comme ça, elle pourra se rattraper de ne pas être là ce soir. Mais voilà, je suis là pour, en tout cas, parler en son nom et vous dire qu'elle s'est préparée. Elle a une équipe vraiment très large. Elle a réussi à rassembler l'ensemble de sa famille politique et bien au-delà. Donc les conditions, en tout cas, pour cette alternance qu'elle porte maintenant depuis des années, puisque je rappelle que ça fait plusieurs années qu'elle... travail, qu'elle se bat à la région dossier par dossier, qu'elle maîtrise des sujets sur le bout des doigts, qu'elle a un projet aujourd'hui qui est complet, qui est concret, qui est financé. Donc je pense qu'elle est prête. Maintenant, ce que vous indiquez là, ce sont des sondages. Ce qui compte, c'est les urnes. Il y a une dynamique qui est en sa faveur depuis le début, parce que je pense que ce travail-là, il paye. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer le 6 et 13 décembre, mais en tout cas, oui, nous sommes prêts.
Avec moi dans ce studio pour explorer en profondeur le programme de la candidate, Alban, bonsoir Alban.
Bonsoir Violette.
Et Loïc, bonsoir Loïc.
Bonsoir Violette.
Alban, je crois que tu avais une première question pour Monsieur Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse.
Oui, alors Monsieur Nasrou, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la sécurité, c'est immiscé beaucoup plus dans la campagne ces derniers jours, forcément, suite aux attentats qui ont lieu à Paris le 13 novembre. Votre candidate Valérie Pécresse a plaidé il y a 15 jours au Conseil régional d'Île-de-France pour l'installation de portiques de sécurité, pour notamment les salles de spectacle et les lycées. Ma question est simple, est-ce que c'est réaliste de vouloir mettre dans toutes les écoles, dans tous les lycées, des portiques de sécurité ? Comment est-ce que vous allez financer ça ?
Alors, ce que propose précisément Valérie Pécresse, c'est d'avoir un fonds dans lequel on peut puiser pour effectivement les lycées ou les conseils d'administration des lycées qui souhaitent installer des portiques de sécurité, mais également pour les gares.
Mesure qui n'était pas dans le programme initial de Valérie Pécresse d'ailleurs.
Alors ce qui était dans le programme initial de Valérie Pécresse, c'est cette idée que la région est quand même compétente en matière de sécurité, quoi qu'on en dise. Ça fait quand même un ensemble de mesures qu'elle a pu décliner en matière de sécurité ces derniers mois et même ces dernières années. Et à chaque fois, on lui répondait, mais non, la région n'a rien à voir. Avec 11,5 milliards d'euros de budget, la sécurité ne peut pas être absente des prérogatives de la région. Donc cette question des portiques de sécurité, moi je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, elle a été rejointe là-dessus par un certain nombre d'autres candidats, y compris socialiste, Madame d'autres, Royal.
D'autres candidats ont par ailleurs dit lors de son intervention au Conseil général que c'était de la démagogie, qu'elle utilisait son intervention pour faire de la campagne.
C'est toujours ça, moi je peux pas comprendre qu'on reproche à un candidat à une élection de faire des propositions concrètes. On n'est pas dans la polémique, mais elle a des idées, elle les propose, après on les retient, on les retient pas. Mais je constate que Madame Royal a a annoncé qu'il y aurait des portiques qui seraient installés sur les lignes TGV en l'occurrence. Donc, ça rejoint la proposition
sur les gares.
Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais je pense que c'est une première étape. Et malheureusement, on ne peut pas rester sans rien faire. Les portiques de sécurité, ça fait partie un peu de ces sujets-là. Mais il n'y a pas que ça dans le projet de Valérie Pécresse.
Haute Manastro, c'est une prérogative de l'État. C'est-à-dire que la région ne peut pas décider ni de l'installation de caméras de vidéosurveillance, ni de l'installation de nouveaux portiques. Tout ce qu'elle peut faire, c'est les financer. Donc s'ils ne sont pas votés, de toute façon, Madame Pécresse ne pourra pas les imposer quoi qu'il arrive.
L'une des compétences essentielles de la région, on va certainement en parler, ce sont les transports. Et en matière de sécurité, il faut bien reconnaître que les transports, c'est un point de vulnérabilité important. Et on peut pas ne pas parler, si on a comme compétence les transports, on a forcément la sécurité qui va derrière, y compris la vidéoprotection dans les transports. Et là aussi, c'est un engagement de Valérie Pécresse d'avoir toutes les rames qui sont vidéoprotégées d'ici à 2021, pour être précis. Bah voilà, bah, tout ça est extrêmement, extrêmement précis, chiffré. Après, vous avez raison, le but n'est pas de remplacer le gouvernement, on ne peut pas le faire, c'est pas le sujet, mais je pense que quand même le président de région il a un rôle essentiel à jouer, y compris un rôle moteur, et je vous rappelle que Valérie Pécresse est aussi une femme qui a de l'expérience, même si elle incarne quand même un peu le renouvellement, elle a fait une proposition de loi aussi sur les contrôles d'identité dans les transports, etc. etc. Donc le président de région, il peut, s'il le souhaite, s'impliquer sur ces sujets-là. Je vous signale juste qu'en 10 ans, le budget sécurité de la région a été divisé par 5. Donc il y a quand même un budget de sécurité qui existe, malheureusement, divisé par 5 en 10 ans, je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire.
Une des propositions que vous faites, notamment pour améliorer la sécurité dans les transports, c'est la création d'une police régionale des transports et la création de 250 nouveaux postes. Comment est-ce que vous les financez et surtout pour les mettre où, ces nouveaux agents de sécurité ?
Alors effectivement, le premier constat, c'est de dire qu'il faut arrêter d'avoir des services qui sont cloisonnés. Vous avez un service, en gros, une brigade de sécurité de transport à la RATP, une autre à la SNCF. Le but, c'est d'unifier tout ça dans une seule police régionale des transports et effectivement de lui renforcer des effectifs, 250 de plus. Je rappelle que malheureusement, les effectifs, ils ont baissé de 300 ces dernières années. Donc il s'agit simplement de revenir au niveau d'à peu près 2010 hein, en termes d'effectifs dans les transports. Sur le financement, Valérie Pécresse a présenté un financement qui est complet. L'objectif est très clair, c'est de ne pas toucher aux impôts. Et voilà, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Il y a deux grands leviers, mais cette mesure-là parmi d'autres, la colonne recettes et la colonne dépenses. En gros, il faut faire des économies de fonctionnement. Ce qui est triste dans cette région, c'est que malheureusement, chaque année, depuis 17 ans, on dépense à chaque fois plus. Et je ne suis pas certain que ce soit en faveur de la qualité de vie et aux services rendus aux citoyens. On pourra en parler en détail ensuite. Donc, il y a 400 millions d'euros d'économies qui sont prévues dans ce projet. On pourra détailler un petit peu. Et puis, vous avez de la même manière 200 millions d'euros de recettes nouvelles, notamment de crédits européens que la région ne va pas chercher aujourd'hui. Je vous donnais juste un exemple là-dessus. Vous avez 50 millions d'euros de crédits européens destinés à l'Île-de-France sur l'emploi qui ont été annulés en juin dernier, faute de projet. Parce que la région n'a pas déposé les projets dans les temps. Et ce sujet-là est quand même, enfin, dans une époque où on critique beaucoup l'Europe, mais si au moins on pouvait récupérer l'argent et les moyens que l'Europe peut nous donner, peut-être qu'on le critiquerait moins. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est financé, c'est chiffré là-dessus, c'est sur Internet et dans le projet. Voilà, on pourrait rentrer dans le détail, mesure par mesure.
Alors, Monsieur Nasrou, en parlant de transport et en même temps de hausse d'impôts, votre candidate Valérie Pécresse est pour le maintien à 70 euros du pass Navigo, donc tarif unique, une mesure qui était passée sous la majorité précédente à la région. Alors, pour financer tout ça et vos autres mesures en matière de transport, vous souhaitez supprimer la réduction de 75% pour les étrangers en situation irrégulière. Alors, dans le même temps, votre candidate a fait savoir assez publiquement qu'elle était contre la fraude. Est-ce que ça ne va pas faire des fraudeurs en plus dans les transports ?
Je ne crois pas. Alors, vous avez raison qu'effectivement, aujourd'hui, on a une problématique. Ce pass Navigo a été mis à 70 euros en tarif unique par la majorité sortante à 2 mois des élections. Bon. On ne va pas revenir sur le caractère un peu de cadeau électoral que peut avoir cette mesure, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'est pas financé. C'est un peu la question. Sinon, à 70 euros, mais pourquoi pas même à 20 euros, enfin, on est tous d'accord. En tout cas, Valérie Pécresse a dit qu'elle allait maintenir ce pass Navigo tarif unique, mais elle dit où est-ce qu'elle va trouver l'argent. Le risque, sinon, c'est bien sûr d'avoir une augmentation massive des impôts à partir de janvier, parce que 300 millions d'euros sur le budget de l'argent, c'est quand même pas rien sur une année. Donc, elle a effectivement indiqué notamment 2 mesures clés, la lutte contre la fraude, qui représente à peu près, l'estimation RATP, notamment, c'est 200 millions d'euros par an. Et pour ça, elle se donne les moyens, vu qu'elle veut qu'on puisse avoir obligatoirement ses papiers d'identité dans les transports quand on est en situation de fraude, ce qui permettrait bien sûr que les amendes soient recouvrées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez à peu près moins de 10% des amendes dans les transports qui sont effectivement payés. C'est 70% pour les automobilistes, simplement parce qu'on ne peut pas vérifier l'identité et avoir l'adresse, naturellement, des fraudeurs. Donc ça, c'est une première mesure qui devrait permettre de récupérer ça. Et moi, je n'ai aucun scrupule là-dessus, très honnêtement. Le but, ce n'est pas d'être dans le tout sécuritaire, mais c'est quand même profondément insupportable qu'il y ait des gens qui payent leur ticket et d'autres qui fraudent régulièrement. Alors, cette fraude, elle est massive, tout le monde la connaît.
D'accord. Alors, je reviens à ma question. Vous supprimez la réduction de 75% pour les étrangers en situation irrégulière. Comment font ces gens-là s'ils ne peuvent pas se payer un pass Navigo? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces personnes soient obligées, enfin, entre guillemets, obligées de frauder?
Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de lien là-dessus, puisque ces personnes-là, ce n'est pas sur une condition de ressources. C'est des étrangers en situation irrégulière, pour qu'ils soient.
Bah, c'est des gens qui, généralement, bénéficient de l'AMF, l'aide médicale d'État. Donc, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, concrètement, de se payer un Navigo en général.
Non, l'aide médicale d'État, vous y avez droit à partir du moment où vous êtes étranger en situation irrégulière. Mais il est quand même profondément choquant qu'un étranger en situation irrégulière ait une réduction de 75%, alors qu'un étranger en situation régulière, lui n'est droit à aucune réduction. Donc c'est quand même absurde, c'est une prime à l'illégalité. Le fait d'être en dehors de la loi ne devrait pas être une raison suffisante pour bénéficier de... Ça coûte 70 millions d'euros par an.
En dehors de cette question de principe, vous avez quand même des gens qui... Pensez-vous vraiment que le fait de supprimer cette réduction empêchera ces gens de prendre les transports en commun et de sauter un portique?
Ben, si on lutte de manière efficace contre la fraude derrière, je pense que c'est parfaitement convergent. Mais si vous voulez, les questions de principe, elles ont quand même leur importance. Pour en parler très honnêtement, moi je suis naturalisé français, j'étais étranger en situation régulière, donc j'ai absolument pas de problème. Régulière en l'occurrence, c'est pas irrégulière, et je considère que ça n'est pas normal d'encourager un petit peu.
Mais vous ne sautiez peut-être pas les portiques.
Si vous sautiez peut-être pas les portiques. Ben non, je ne les sautais pas. voilà, même quand j'étais étudiant, je ne les sautais pas. Voilà, mais j'aimerais bien que personne ne les saute. Alors il y en aura toujours quelques-uns, mais si on peut réduire le nombre. Si quelqu'un ici ou un autre candidat d'ailleurs une meilleure proposition là-dessus, voilà, mais qu'on ne me dise pas que cette mesure est acceptable, il faut la supprimer. Je ne crois pas du tout qu'elle va augmenter la fraude. Absolument pas. Surtout que le pass Navigo à tarif unique, parce que je vous rappelle qu'en baissant le prix du pass Navigo à tarif unique, on augmente aussi le nombre d'abonnés. Et a priori, on est sur une hausse de 10% du nombre d'abonnés. Donc on récupère aussi des recettes. C'est moins cher, c'est plus accessible. Raison de plus pour être encore plus strict sur la fraude.
On va continuer à parler de toutes ces questions avec vous, Othmane Nasrou, le porte-parole de Valérie Pécresse pour les régionales en Ile-de-France, après une petite pause musicale.
Sur cette côte d'azur, les baigneurs palmipèdes ignorent tous les secrètes plages où l'on étend nos 17 ans. Tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr. Je te conduite dans la pinède. C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend nos 17 ans. Toutes les premières fois louches, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louches, l'amour est maladroit, gauche, dans le bois tourne à droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, ça. Que souvent ça les soirs qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel ou dans l'aube du soir. Toutes les premières fois, il faut que l'on sache des soirs se perdre en mieux, vaut fermer les yeux. Ne cesse 3-4 de compter princesse. Oh, 3-4 de compter princesse. Il faut que l'on sache des soirs se perdre en mieux, vaut fermer les yeux. 3-4 de compter princesse. Compter princesse. Tu étais malin dans tes godasses, dans tes baskets converses, et je priais la godesse de la promenade des Anglais. D'abord je paradais, puis tu appréhendais mes audaces, d'un geste tu les chassas comme les mouches roses au-dessus de nos têtes. Et mes largesses, tu les mises à l'index, c'est déjà sale, Alexa, c'est déjà sale. Au café du commerce, voilà du grain à moudre. Le grand amour commence par un coup de foudre, et le vent désertique a mis le feu aux poudres. Pendant qu'on s'aime, crépitent les arbres blancs. Entends-tu la violence sourde?
c'est la mort que les flammes sèment. En sens-tu les relents. Toutes les premières fois louches, l'amour est maladroit, gauche. Dans le bois tourne à droite, gauche. Droite, gauche, c'est bien ce que tu crois. Toutes les premières fois louches, l'amour est maladroit, gauche. Dans le bois tourne à droite, gauche. Droite, gauche, c'est bien ce que tu crois, sache. Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel ou dans l'aube du soir. Toutes les premières fois, il faut que l'on sache les choix. Se perdre au mieux, vaut fermer les yeux. Le 16, 3, 4, de compte et princesse. Oh, 3, 4, de compte et princesse. Il faut que l'on sache les choix. Se perdre au mieux, vaut fermer les yeux. 3, 4, de compte et princesse. Le conte français.
Et on écoutait La mort dans la Pinène de Feu Chatterton sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Nous sommes toujours en compagnie d'Othman Nasrou, le porte-parole de la candidate Valérie Pécresse, candidate pour Les Républicains, l'UDI et le MoDem en Ile-de-France. Alban, c'est à toi.
Oui, alors Monsieur Nasrou, il y a une mesure qui proposée par votre candidate Valérie Pécresse qui, durant la campagne, a fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, c'est la proposition de tests de dépistage de consommation au cannabis dans les lycées. Alors concrètement, Valérie Pécresse propose que la région finance ces tests dans les lycées. Problème, c'est que pour le moment, bah, il n'y a rien dans la loi qui permet concrètement d'organiser ce dépistage sur les mineurs. Alors concrètement, vous voulez faire comment ?
Alors bien sûr, cette proposition peut facilement être caricaturée. Moi, j'aimerais qu'on s'en tienne à ce que propose Valérie Pécresse, parce qu'on ne peut pas tous regretter qu'il y ait effectivement un problème sur la drogue dans les lycées qui peut être source d'échecs scolaires. Alors, peut-être pour une petite minorité, ça peut être bien vécu, bien géré, mais c'est aussi endémique. On connaît tous des gens qui ont sombré dans la drogue ou qui ont des familles aussi désemparées par rapport à ça. Et la drogue, d'ailleurs, il y a plusieurs types de drogues en l'occurrence, mais on parlait surtout du cannabis qui peut être aussi un vrai sujet de
société.
C'est
vraiment une des grandes lignes de la campagne de Valérie Pécresse, c'est la lutte contre les drogues.
Il y a un sujet sur les addictions au lycée. Simplement, tout le monde le sait. Et moi, je pense qu'il faut quand même à un moment remettre du volontarisme un peu en politique, parce que le côté impuissance publique, et puis tout le monde, vous savez qu'il y a une défiance vis-à-vis du politique en ce moment, on en parle, voilà, on parle tout le temps des problèmes, mais finalement, on n'avance jamais. Donc au moins, elle fait une proposition concrète qui est extrêmement simple, et il faut vraiment être précis là-dessus. Il s'agit de que la région finance dans les lycées qui le souhaitent des dépistages systématiques sur une classe d'âge dans le lycée. Le lycée n'a pas accès aux résultats. C'est important. Le lycée n'a pas accès aux résultats, il a accès à la statistique. Donc on sait, ouais, par telle classe d'âge, etc. Le proviseur, en l'occurrence, c'est ce qu'il saura.
Ce qui veut dire
la famille et l'élève auront les résultats pour savoir si c'est positif ou négatif, etc., au dépistage du cannabis. Et ça, je trouve que c'est une mesure effectivement tout à fait pertinente et qui est de nature à améliorer les choses là-dessus.
Ce qui veut dire que concrètement, le procureur pourrait quand même savoir dans quelle classe, par exemple, combien d'élèves en pourcentage statistique prennent du cannabis régulièrement.
Oui, il pourrait avoir ce genre d'informations statistiques, pas nominatives. Il ne saura pas qu'un tel ou un tel est consommateur ou pas consommateur, mais il saura effectivement que dans son lycée, comment ça se passe. Et ça, je pense
mais
que c'est
ça. Qu'est-ce que ça apporte finalement si on n'a pas entre guillemets, les noms des élèves pour pouvoir les aider au cas par cas, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les désigner en disant un tel fume pas, un tel fume beaucoup, un tel fume un peu moins. Voilà, en quoi est-ce que ça renseigne quelque chose d'intéressant pour la santé de l'élève, pour sa réussite scolaire personnelle, là, pour le coup ?
Il y a deux choses là-dessus. Premièrement, les familles, elles, vont savoir. Et je vous rappelle que c'est les familles qui, plus souvent, ne savent pas gérer ce genre de situation.
Bah justement, qu'est-ce que ça peut leur apporter si elles ne savent pas gérer ce truc-là, déjà, avant même de le savoir.
Elles ne savent même pas si leur enfant, en l'occurrence, est consommateur ou pas consommateur de drogue. Donc je pense que c'est quand même important qu'elles aient ces outils-là dans les lycées.
Et après, comment vous les accompagnez, justement, ces familles, pour qu'elles accompagnent leurs enfants, pour qu'ils sortent de la drogue ? Parce que savoir, c'est bien, mais après, il faut agir aussi.
Mais on est entièrement d'accord, mais il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent et qu'il s'agit de renforcer là-dessus. Et puis, il y a une question aussi qui va là-dessus. Enfin, la statistique dont on parlait tout à l'heure, elle va permettre aussi aux lycées de mettre en place une politique de prévention qui est adaptée. Il faut commencer par nommer les choses. On ne peut pas rester dans le flou là-dessus. C'est un phénomène énorme, mais tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Donc, on a la statistique. Le lycée sait qu'il a ce problème. Il peut le mesurer. Il met en place les politiques de prévention. Il est accompagné par la région, financé par la région dans ces politiques de prévention qui existent, mais qui ne sont pas toujours ciblées. Et puis, il y a derrière la lutte aussi contre les trafiquants de drogue, contre les dealers. Là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est souvent comme ça que ça se passe dans des lycées où le trafiquant peut même rentrer dans le lycée et puis vendre ce qu'il a à vendre. Et si on peut peut pas mesurer les choses, ça ne sert à rien. Et puis les familles, ensuite, elles sont dans leur rôle d'éducation, on ne va pas remplacer les familles non plus.
Alors le fait que les dealers rentrent dans les lycées, pour ma part, je ne sais pas si c'est des données chiffrées. En l'occurrence, sur le plan de prévention, vous disiez financer. Est-ce que vous comptez mettre un peu plus d'argent justement sur la prévention, le dépistage, aider notamment à la création de postes d'infirmières ou voilà, ce genre de choses qui coûtent de l'argent. Est-ce que vous maintenez un budget constant pour cette prévention-là ou est-ce que vous allez mettre un petit peu plus d'argent pour ça?
Ce qui est certain, c'est que dans les économies souhaite faire Valérie, il y en a beaucoup. La Pécresse défend effectivement de faire. Il y a beaucoup d'économies qu'on peut faire sur la gestion régionale aujourd'hui, parce qu'il y a un gaspillage à tous les étages. On pourra éventuellement en parler. Mais il n'est pas question de toucher à ce type de budget. Et même, elle va au-delà, puisqu'elle propose de désigner un référent addiction dans chaque lycée. Donc, vous avez une personne dont c'est le sujet précisément de mettre en musique la politique de prévention là-dessus. Et bien sûr, là-dessus, c'est sa qualité. De la même manière pour les associations, puisqu'effectivement, la région subventionne un certain nombre d'associations. Toutes les associations d'utilité publique, et bien sûr, y compris celles qui touchent à ce type de sujet-là, il n'est pas question, évidemment, de réduire la voilure. Non, non. Par contre, il faut faire en sorte que ça fonctionne mieux, que ça fonctionne de concert, que ce soit convergent, et qu'on se donne les outils, quand même, au bout d'un moment, pour être efficace. Sinon, on va encore en reparler. Le but, c'est pas que Valérie Pécresse, à la fin de son mandat, revienne vous expliquer qu'elle n'a rien réussi à faire, parce qu'elle n'a pas osé s'attaquer à ce type de sujet.
Alors, monsieur Nasrou, autre sujet, les stages, mais qui concerne aussi de près les jeunes, évidemment. Votre candidate Valérie Pécresse promet 100 000 stages pour les jeunes franciliens. En gros, hein, tous ceux qui reçoivent une subvention de la région devraient recruter au moins un jeune en stage en alternance. Alors, sachant que la loi plafonne désormais à 15%, plafonner à 15% le nombre de stagiaires en entreprise, est-ce qu'il est réaliste ce chiffre de 100 000 stages en plus ?
Oui, il est parfaitement réaliste puisque la région distribue à peu près 2 milliards d'euros de subventions par an. Et l'idée, c'est par tranche de 20 000 euros, vous avez l'accueil d'un jeune. Alors, une expérience professionnelle, ce n'est pas forcément un stage. Ça peut être un apprentissage, ça peut être, en tout cas, notamment les stages. Mm-hmm. C'est parfaitement réaliste. Ça me paraît être la moindre des choses puisqu'à partir du moment où on bénéficie de l'argent public, on peut demander une contrepartie civique. Et puis, vous le savez, moi, je suis élu d'une ville qui s'appelle Trappes et on a cette problématique-là d'accès aux stages. J'ai énormément de jeunes qui n'ont pas les réseaux parce que malheureusement aujourd'hui ça fonctionne comme ça, ça fonctionne avec, disons-le clairement, avec du piston, et si vous n'avez pas le bon réseau, c'est très compliqué de faire un stage, même des stages de 3e parfois.
Moi, donc vous voulez aider les jeunes à avoir plus de pistons. Mais
non,
c'est ça.
Et au contraire, il faut augmenter l'offre de stage. La mesure elle est là-dessus, c'est de créer 100 000 offres supplémentaires en se servant de l'argent que la région distribue déjà, donc ça ne coûte pas un euro de plus. Il s'agit de demander cette contrepartie-là, donc vous avez 100 000 stages de plus sur le marché. Et pour l'accès, vous avez entièrement raison, oui. Il y aura une base de données en ligne, régionale, dans laquelle il y aura toutes ces offres-là, là-dessus. Alors au contraire, c'est vraiment le contraire du piston. Hein. Par contre, là aussi, on peut faire comme si de rien n'était, on peut considérer qu'il n'y a pas ce problème-là, et laisser ceux qui ont, en général, le plus de réseaux, par leurs parents, etc., continuer à avoir des expériences professionnelles. Mais on sait que la réalité, si on ne met pas le pied à l'étrier, si on n'accède pas au monde de l'entreprise, on ne peut rien faire. Hein. Enfin, c'est là-dessus que ça se passe. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, elle est coupée en deux là-dessus.
Mmh. Alors, vous souhaitez, je reviens un petit peu au transport, vous souhaitez notamment faire passer le code de conduite directement et gratuitement dans les lycées. Alors, pour financer ça, vous évoquez la personnalisation, enfin, vous évoquez parmi les pistes notamment une personnalisation des plaques minéralogiques. Est-ce que ce sera suffisant ?
Alors, là aussi, l'idée est assez simple, elle est de regarder ce qui se fait ailleurs et de prendre les meilleures idées qui existent dans d'autres pays. C'est quand même la moindre des choses, mais c'est quelque chose qu'on a toujours un peu de mal à faire en France. Et en l'occurrence, la personnalisation des plaques d'immatriculation, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait en Suisse, ça se fait en Allemagne, sauf erreur de ma part, ça se fait aux Pays-Bas également. Et ça rapporte plusieurs dizaines de millions d'euros par an. L'idée est simple, ceux qui le souhaitent peuvent personnaliser leurs plaques. Alors on peut penser effectivement à des amateurs qui ont envie de se payer une plaque d'immatriculation personnalisée à leur nom, mais c'est aussi des flottes d'entreprises notamment qui rajoutent leur logo, etc., sur les plaques d'immatriculation. Et ce qui est bien avec cette idée là c'est que voilà enfin quelqu'un, une candidate en l'occurrence, qui essaie d'avoir des idées pour avoir des ressources financières sans augmenter les impôts, sans aller les chercher dans la poche du contribuable et sans être dans l'austérité bête et méchante qu'on peut connaître parfois.
Juste une remarque justement sur cet aspect financement, parce que à un moment de la campagne il avait été annoncé que le financement précis budgétisé, donc votre programme budgétisé, serait rendu public. Ce programme, aujourd'hui, on a du mal à le trouver quand on se rend sur votre site web. Est-ce qu'il est effectivement public ? Est-ce que l'ensemble des mesures que vous proposez, on a parlé notamment des tests de dépistage financés, du code de conduite gratuit, est-ce que toutes ces mesures, elles sont budgétisées concrètement ?
Vraiment, et là-dessus, si vous avez une question précise, moi je m'engage à vous donner le chiffrage précis, mais chaque point est chiffré, vraiment, là-dessus. Après, on peut discuter des chiffres, des estimations. Je vous donne un exemple. exemple, on n'est pas d'ailleurs d'accord entre candidats, sur la, par exemple, Valérie Pécresse propose aussi une taxe de transit pour les poids lourds qui traversent l'Île-de-France là-dessus. Elle la chiffre à 100 millions d'euros de recettes nouvelles par an. Bon, le candidat, M. Bartolone, le candidat socialiste, il dit que c'est 400 millions d'euros par an. Donc, si vous voulez, on est à 4 fois moins. Vous voyez, donc chaque point est vraiment chiffré là-dessus. On ne peut pas être d'accord, mais en général, c'est un chiffrage plutôt prudent, plutôt sérieux. C'est une ancienne ministre du budget. Donc, elle a accordé un soin tout particulier à ces questions-là. Et donc, là-dessus, c'est important pour elle de dire où elle va trouver l'argent. Et effectivement, l'idée de proposer l'apprentissage du code gratuitement, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème pour la mobilité des jeunes. Enfin, y a plein d'emplois qui ne sont pas pourvus, mais accéder au permis, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est notamment, alors, faut le préciser, c'est d'abord pour les lycées professionnels et les CFA, pour les apprentis. D'abord, là-dessus, on va dire n'importe quoi. C'est-à-dire que le but, c'est pas dès 2016 de le proposer. Alors peut-être qu'ensuite, on pourra le proposer dans tous les lycées, mais précisément là-dessus, et de s'appuyer sur une ressource nouvelle, qui est cette vente de plaques d'immatriculation. Et ce qui est bien, c'est que c'est innovant comme mode de financement. Moi, je trouve que ça fait du bien quand même d'avoir un candidat, quelqu'un qui fait de la politique, qui a un peu une logique de chef d'entreprise.
Donc ça veut dire que concrètement, pardon de vous couper, mais concrètement, quand on voudra savoir précisément combien ça coûte, comment le financer, il faudra vous demander, on ne pourra pas trouver ces informations.
Non, non. C'est, il y a c'est beaucoup d'informations qui ont été publiées, mais volées par volées, sauf erreur de ma part. Dans le volet transport, vous avez le chiffrage complet de la rénovation des rames, parce qu'elle souhaite rénover les rames quand même pendant certaines en 40 ans.
Avec des, les transports, voilà, justement, c'est un spécialiste S-Transport
dans
ce
le détail.
Studio.
Donc voilà, après, vous me direz quelles informations vous recherchez, mais sur le site de campagne, il y a quand même l'ensemble du financement. Elle a fait une conférence de presse où elle a présenté son plan d'économie en détail. Donc voilà, en gros, le coût total de son projet, comme je vous le disais, en gros, vous avez pour 800 millions d'euros. Il y a une certaine partie d'économie, une partie de recettes nouvelles, et tout ça est parfaitement chiffré.
Et les transports, justement, c'est un des points essentiels du programme de Valérie Pécresse. Elle a annoncé une révolution dans les transports en proposant des transports qui fonctionneraient les week-ends et la nuit, sans interruption. Mais est-ce que, enfin, c'est quelque chose qui revient souvent dans les campagnes électorales, on l'a déjà entendu à la municipale de Paris l'année dernière, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Et surtout, en combien de temps?
Là encore, on n'a pas une candidate ici qui est dans la posture. Et vraiment, c'est pour ça que je vous le dis comme je le pense, je suis très fier de faire campagne pour Valérie Pécresse.
En tout cas, vous n'êtes pas dans la posture. Après, malheureusement, on n'a pas Valérie Pécresse en face de nous.
Ben mais... Oui, mais je parle en son nom parce que précisément, je vais rectifier ce qui vient d'être dit. Elle n'a pas proposé, par exemple, le métro toutes les nuits, etc. Non, non.
Toute la nuit, le week-end.
Le week-end, et voilà, tout à fait. Non, mais parce que M. Bartolone, lui, propose le 24 heures sur 24. Tous les jours de la semaine.
Commençons déjà par le week-end. Est-ce possible le week-end, premièrement, et est-ce que ce sera possible avant 15 ans?
C'est possible, c'est chiffré en commençant par les lignes automatiques, qui sont naturellement beaucoup plus faciles à faire fonctionner la nuit, beaucoup moins cher. Ce qui est absurde, c'est de dire qu'effectivement, dès 2016, comme le dit encore une fois le candidat socialiste, on va ouvrir tous les métros la nuit. Ça, c'est n'importe quoi, ça coûte 1,2 milliard. Ouvrir le métro une heure de plus sur une année, c'est 100 millions d'euros. Donc vous faites le calcul là-dessus, voilà, si vous rajoutez, etc., là-dessus, vous êtes déjà plusieurs centaines de millions d'euros pour l'ouvrir tout le temps. Donc non, les lignes automatiques. Il faut ensuite continuer à automatiser certaines lignes. La 11, notamment, c'est très engorgé. La 13, ce serait quand même bien, parce que c'est des lignes qui sont...
Et ça, vous le faites sur quelle échéance, du coup?
Tout ça, alors, ce qui est très bien aussi, c'est que non seulement il y a le financement, mais il y a aussi un calendrier précis. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé de la rénovation des rames. Bien, Valérie Pécresse, elle a indiqué qu'elle allait rénover l'ensemble des rames pour qu'elles aient toute une moyenne d'âge à la fin de son mandat de 10 ans. Donc c'est chiffré, ben, pour le RER A, les premières rames pourraient arriver dès la fin de l'année.
On commence à manquer de temps.
Juste finir là-dessus, tout ça est en ligne. Vous avez le programme de transport, il fait 19 pages. Juste sur les transports, vous avez le financement complet à la fin, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, comment c'est chiffré. Et vraiment, là, on a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à mettre en place cette politique d'alternance.
Eh bien, écoutez, rendez-vous alors sur le site de la candidate Valérie Pécresse. Merci beaucoup, Othmane Nasrot, d'être venu parler en son nom dans le studio de Radio Campus Paris. On se quitte sur une petite touche de musique, Feel You, de Julia Holter.
Radio Campus Paris.